docteur Aurélie Mouton, qui va me rejoindre sur scène, qui est donc neurologue au CHU de Nice et qui a décidé, je crois, de diviser sa présentation en deux parties, maladie apparentée et recherche sur Alzheimer. Et ce sera donc interrompu par la possibilité de poser quelques questions.
Ouais, voilà. Bon, merci beaucoup pour l'organisation et de m'avoir invité à vous parler, pas de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. On parlera des maladies apparentées, dont ce qui peut ressembler, mais qui n'est pas une maladie d'Alzheimer. On va commencer par ça, ensuite effectivement les questions, et ensuite on fera une intervention sur les actualités thérapeutiques qui m'amènent à poser beaucoup de questions souvent. Alors, pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Donc les maladies apparentées, on entend beaucoup parler. La plus fréquente, donc, des troubles neurocognitifs majeurs, le plus fréquent, c'est la maladie d'Alzheimer. Mais on n'en parle pas aujourd'hui. La deuxième cause, ça va être ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs vasculaires. C'est, voyez, 15 à 20% des troubles neurocognitifs majeurs. Et donc là, on n'est pas dans une origine qu'on appelle neurodégénérative. Neurodégénérative, c'est quand il y a une perte progressive de neurones. On est dans une origine vasculaire. Il va y avoir des lésions vasculaires qui vont être responsables de troubles neurocognitifs. Alors, typiquement, le tableau clinique, ça va être des personnes qui ont plutôt un contexte vasculaire, c'est-à-dire des facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension artérielle, du diabète, du cholestérol, un tabagisme. Tout ça sont des facteurs à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Et donc aussi à risque de développer des problèmes cardiaques, infarctus du myocarde, des problèmes artériels ou des accidents vasculaires cérébraux. Et quand il y a une atteinte cérébrale, on peut avoir des troubles cognitifs. L'évolution habituelle, du coup, se fait ce qu'on appelle en marche d'escalier, c'est-à-dire par à-coups, contrairement aux maladies neurodégénératives qui sont habituellement une aggravation progressive au fil des mois, voire des années, de symptômes. Là, ça va être plutôt brutal ou par à-coups, en marche d'escalier. Et éventuellement, une relation temporelle avec un accident vasculaire cérébral. Donc, on fait un AVC et au décours, il peut y avoir des troubles cognitifs qui sont notés et qui peuvent rester séquellaires. Alors, les troubles cognitifs ne vont pas être tout à fait pareils que dans la maladie d'Alzheimer. Donc, on peut faire un peu la différence comme ça. Ça va être ce qu'on appelle des troubles plutôt dysexécutifs, c'est-à-dire du ralentissement, des difficultés d'attention, de concentration, des difficultés d'organisation, des difficultés de planification, et pas trop les difficultés de mémoire qu'on a dans la maladie d'Alzheimer, où on a du mal à enregistrer, stocker des nouvelles informations. Donc c'est un petit peu différent dans le profil. Et on peut voir aussi d'autres troubles cognitifs, par exemple des troubles du langage, des difficultés dans les gestes, selon la zone cérébrale qui est touchée. Et peuvent s'associer aussi d'autres signes neurologiques, type déficit moteur, hémiplégie, hémiparésie, s'il y a eu un AVC, des troubles sensitifs, pareil, hémihypoesthésie, ça selon la localisation de l'accident vasculaire cérébral ou de la lésion vasculaire. Et on peut avoir donc aussi des problèmes de marche, des problèmes au niveau sphinctérien, des difficultés urinaires, et ce qui n'est pas très spécifique, mais ce qui arrive souvent, des modifications de la personnalité et des troubles de l'humeur, c'est-à-dire le moral, des syndromes dépressifs, en fait. Donc ça, c'est l'aspect clinique. Et on va avoir un aspect sur l'imagerie, en fait. Donc soit sur du scanner. Je ne sais pas s'il y a le pointeur, je n'ai pas demandé. Pointeur. J'essaye, je risque de tout. Ouais, c'est bon. De tout faire sauter. Donc là, on est sur des images en scanner, là, toutes ces images-là. Et donc, on peut trouver dans, comme lésions vasculaires, en fait, responsables de troubles neurocognitifs, différentes lésions. Donc, soit des accidents vasculaires cérébraux, donc AVC, qui peuvent être de deux sortes. Soit hémorragiques, voilà, je fais sauter. Soit hémorragiques, par exemple ici, ce qui est blanc, c'est du sang, en fait, c'est un saignement cérébral. Soit ischémique, il y a deux sortes d'accidents vasculaires cérébraux. Et donc ischémique, ça va être une artère qui se bouche, et donc une zone cérébrale qui n'est plus alimentée et qui va souffrir et nécroser. Et là, on voit, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a toute une zone plus noire à droite par rapport à... Alors, je dis à droite parce que c'est à droite dans le cerveau, par rapport à l'autre côté. Et donc là, c'est en fait une séquelle d'ischémie cérébrale, d'AVC ischémique, une artère qui s'est bouchée. Et on voit que ça laisse quand même des séquelles au niveau cérébral. Et donc, quand il y a des lésions comme ça, ben, ça peut être responsable de troubles cognitifs. D'autres types de lésions, c'est ce qu'on appelle la leucopathie. La leucopathie, ça va ressembler à ça. Là, on est sur une image d'IRM cérébrale. Et tout ce qui est blanc, là, c'est pas normal. C'est les petites artères cérébrales qui sont abîmées avec les facteurs de risque cardiovasculaire. Les petites artères sont abîmées et ça fait des petites lésions, comme des tout petits AVC, si vous voulez, au niveau cérébral. Mais quand il y en a beaucoup, eh ben, ça peut avoir des conséquences cliniques et se manifester par des signes cliniques, dont des troubles cognitifs. Et là-haut, c'est ce qu'on appelle des lacunes. Donc les lacunes, c'est des tout petits AVC qui vont faire un peu comme des petits trous au niveau cérébral. On le voit sur l'IRM, des petits trous noirs, par exemple. Voilà, c'est des petits AVC, mais après, quand il y a des lacunes qui deviennent un peu nombreuses, qui sont situées dans des zones stratégiques, bah pareil, ça peut être responsable de troubles neurocognitifs. Voilà, alors pour ce qui est de la prise en charge de ce cadre diagnostique, hein, ça va être, ben, on va rechercher, je vous parlais des facteurs de risque cardiovasculaire, on va faire un bilan pour savoir si les personnes ont des facteurs de risque cardiovasculaire, et l'idée, ça va être de corriger, de contrôler ces facteurs de risque. Donc, bien équilibrer un diabète, par exemple, bien équilibrer une hypertension, arrêter le tabac si possible, voilà, bien équilibrer le cholestérol, faire de l'activité physique, c'est valable pour tout. Donc, voilà, on fait ce bilan, on fait un bilan cardiaque aussi pour voir s'il n'y a pas une cause cardiaque aux problèmes cérébraux, aux AVC, et un bilan des TSA, c'est-à-dire les troncs supraaortiques. On vérifie les artères cérébrales parce qu'elles peuvent être un peu bouchées par de l'athérome, et ça, ce n'est pas très bon pour le cerveau. Voilà, il n'y a pas de médicaments spécifiquement contre les troubles cognitifs vasculaires. Il y a une prise en charge non médicamenteuse de rééducation selon les symptômes en fait, des personnes. Hein. Ça peut être donc, des séances de kiné s'il y a une atteinte motrice, des séances de rééducation cognitive avec neuropsychologue ou orthophoniste s'il y a une atteinte cognitive. Ça va s'adapter selon les symptômes. Voilà. Troisième cause, donc, après maladie d'Alzheimer, première cause, troubles cognitifs vasculaires, deuxième cause. Troisième cause de troubles neurocognitifs majeurs, donc, c'est-à-dire des troubles neurocognitifs responsables d'une perte d'autonomie. La troisième cause, ça va être la maladie à Cordé-Lévy. Donc là, on revient dans une origine neurodégénérative, comme la maladie d'Alzheimer. Donc quand on parle des origines neurodégénératives, maladie à Cordé-Lévy, c'est la deuxième cause. Donc c'est quand même assez fréquent, vous voyez, 10% hein, des troubles neurocognitifs majeurs. Âge moyen à peu près 70 ans. Donc, c'est, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, hein, c'est un peu plus rare, mais finalement, on peut y être confronté assez régulièrement. Et donc là, ce qui va se passer au niveau cérébral, finalement, ça va être un dépôt d'une certaine protéine hein, qui s'appelle l'alpha-synucléine et qui va former des Cordé-Lévy dans les neurones au niveau cérébral. Et les signes cliniques vont être donc... assez différent, mais en même temps, pas si différent que ça par rapport à la maladie d'Alzheimer. En fait, il va y avoir à la fois des signes cognitifs, comme on retrouve dans la maladie d'Alzheimer, mais on va avoir aussi des signes parkinsoniens qu'on retrouve dans la maladie de Parkinson idiopathique. C'est un peu un mélange des deux, si vous voulez. Et voilà, je vous ai mis les critères principaux, les critères diagnostiques principaux, hein, les quatre plus importants qui vont nous faire évoquer éventuellement une maladie à Cordé-Lévy. Donc, ça va être des troubles cognitifs, donc des troubles des fonctions supérieures, qui sont plutôt encore des troubles dits exécutifs, comme tout à l'heure, c'est-à-dire du ralentissement, des troubles attentionnels, difficultés d'organisation, de planification, ou des troubles plutôt neurovisuels, donc la zone cérébrale qui traite les images, en fait, qui va être en difficulté. Et avec des fluctuations, ça, c'est un critère assez important, c'est-à-dire qu'au cours de la journée ou selon les jours, il va y avoir des moments où la personne va être vraiment pas bien et des moments où ça va aller mieux. Voilà, une variabilité, une fluctuation des troubles et de la vigilance. Un deuxième point important, c'est la présence d'illusions ou d'hallucinations visuelles, c'est-à-dire de voir des choses qui ne sont pas réellement là. Les personnes, par exemple, vont voir des gens dans la pièce ou des animaux alors qu'il n'y a rien. Ou alors, si c'est des illusions, à la place d'un arbre, ils vont dire « Ah, mais je vois quelqu'un là-bas, qui c'est ?» Ou à la place d'une tâche, ils vont dire « Ah, mais il y a des petites fourmis. » Des visions un peu déformées. Ça, c'est un critère important. Ça peut survenir donc assez tôt dans le début de la maladie et ça peut mettre un peu l'alerte sur le diagnostic d'une maladie à Cordé-Lévy. Les signes parkinsoniens, du coup, je vous en ai parlé. Hein, donc, ça va être des signes cliniques qu'on trouve dans la maladie de Parkinson, qu'on peut trouver aussi dans la maladie à Cordé-Lévy, c'est-à-dire une akinésie, donc un ralentissement des gestes et une diminution de l'ampleur des gestes. Les gestes sont plus petits, plus ralentis. La rigidité, donc de la raideur hein, dans les membres. Et tremblement, qui est un tremblement plutôt de repos. Donc quand les bras sont par exemple inactifs, hop, on va voir un tremblement apparaître. Donc ça, c'est des signes typiques hein, de maladie de Parkinson. Mais associé à d'autres atteintes comme ça, on va évoquer plutôt une maladie à Cordes-Lévy, quand il y a le mélange cognitif, hallucination et signes parkinsoniens. Et le dernier point, le dernier critère important, c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Donc ça, c'est pendant la nuit, pendant le sommeil, on a des phases de rêve hein, qui s'appellent le sommeil paradoxal. Et de manière physiologique, hein, normalement, on ne bouge pas pendant nos rêves. Il y a une atonie motrice. Nos muscles sont comme paralysés pendant nos rêves. Et donc, on vit nos rêves, mais on ne bouge pas. Et là, il y a une perte de cette atonie. Du coup, les gens, quand ils vont rêver, eh ben, ils vont vivre de manière motrice leurs rêves. Et donc, s'ils rêvent qu'ils courent après quelqu'un, ils vont se mettre à faire comme s'ils couraient dans le lit. Donc, il peut y avoir des grands gestes, il peut y avoir des coups pendant les rêves. Donc ça, c'est évocateur de ce qu'on appelle le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Et c'est un des critères de maladie à Cordes-Lévy. Après, on a, pour nous aider, hein, parce que vous avez vu que c'était des critères très cliniques, hein, sur l'histoire de ce que nous racontent les personnes, hein, ou l'entourage, ou sur notre examen, quand on examine les personnes. Mais il y a aussi des éléments, des examens complémentaires qui peuvent nous aider dans le diagnostic. Donc, il y a le DAT scan ou le PET scan à la fluorodopa. Tous les deux, ce sont deux examens pour regarder les neurones dopaminergiques. Et on va voir si ils montrent qu'il y a une perte des neurones dopaminergiques, eh ben, ça va être un argument pour la maladie à Cordes-Lévy. Les neurones dopaminergiques, justement, quand on en manque, ça donne les signes parkinsoniens. Donc, tout est logique. Ensuite, on peut faire aussi une scintigraphie myocardique, qui va montrer des anomalies particulières qui peuvent donc faire évoquer la maladie à Cordes-Lévy. Et on peut faire un enregistrement du sommeil. Donc une nuit, on va enregistrer pour voir s'il y a ce que je vous décrivais, des troubles du comportement au sommeil paradoxal, cette agitation pendant les rêves. On peut le mettre en évidence par un examen. Voilà, donc au niveau de la prise en charge de la maladie à Cordes-Lévy, il y a quand même des choses à faire. Sur le plan cognitif, on a des thérapies qui sont disponibles, qui sont les deux des traitements anti-Alzheimer qui sont actuellement disponibles en pharmacie, hein, qui ont un intérêt dans la maladie à Cordes-Lévy, à la fois sur le plan cognitif et sur les hallucinations, permettent d'atténuer les symptômes. Donc les deux qui sont recommandés dans la maladie à Cordes-Lévy, ce sont ces deux-là, donépezil et rivastigmine, ou Aricept et Exelon. On peut aussi, quand il y a des signes moteurs, des signes parkinsoniens, de la rigidité, de la lenteur dans les gestes, donner des traitements, les mêmes traitements qu'on donne dans la maladie de Parkinson, les traitements dopaminergiques. Alors, on ne donnera pas tous les traitements qui sont disponibles dans la maladie de Parkinson, on donnera la L-DOPA, c'est-à-dire Modopa ou Cinemet, si vous avez déjà entendu parler, qui n'aggraveront pas trop les troubles cognitifs, parce que c'est le risque pour les autres sortes de traitements anti-parkinsoniens. On peut être amené, si besoin, à donner ce qu'on appelle des psychotropes, c'est-à-dire quand il y a beaucoup d'hallucinations qui sont gênantes, qui sont angoissantes, perturbantes, avec de l'agressivité, on est parfois, quand il n'y a pas d'autre solution, que les thérapies non médicamenteuses ne fonctionnent pas, on peut être amené à prescrire des traitements pour calmer ces hallucinations et cette agressivité. Et donc, ça va être des neuroleptiques, mais avec une grande prudence, parce que les neuroleptiques, ils peuvent aggraver des syndromes parkinsoniens. Donc, il y a finalement seulement ce qu'on appelle les neuroleptiques atypiques, certains neuroleptiques qu'on peut donner dans la maladie à Cordes-Lévy, clozapine ou quétiapine, si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, attention, les autres sont contre-indiqués parce que ça peut aggraver la maladie et aggraver les signes moteurs. D'où l'importance quand même de faire ce diagnostic. Et les thérapies non médicamenteuses, c'est toujours valable. Donc la prise en charge cognitive, neuropsychologue, orthophoniste, prise en charge kiné quand il y a des atteintes motrices, des problèmes de marche, des chutes. Voilà, c'est toujours valable. Ensuite, un petit peu moins fréquent, la dégénérescence lobaire frontotemporale. Donc là, on est toujours dans les maladies neurodégénératives, hein, avec une perte progressive de neurones. Mais cette fois, ça ne va pas être la même protéine. Hein. Ça va être diverses protéines qui vont se déposer dans le cerveau à des endroits assez spécifiques du cerveau, en fait. Et il y a deux formes. Il y a une forme qu'on va appeler comportementale, de la dégénérescence lobaire frontotemporale, ou DLFT, vous entendrez parler. Donc la forme comportementale ou des formes langagières. Donc selon que l'atteinte, elle va être plutôt au niveau frontal, c'est la zone qui gère le comportement. Il va y avoir, donc, si l'atteinte est plutôt frontale, des troubles plutôt comportementaux. Et quand il y a une atteinte plutôt temporale, ici, ça va être une atteinte plutôt de langage, des problèmes de langage, des difficultés pour parler, pour s'exprimer ou pour comprendre éventuellement. Donc au niveau comportemental, ça va être, voilà, par exemple, de la désinhibition, des gens qui se mettent à faire des choses qui ne se font pas en public ou qui ne se font pas, dire un peu leur cas de vérité voilà, aux voisins. Voilà, des changements dans le comportement comme ça. Il peut y avoir de l'apathie, vous entendrez parler sûrement d'apathie aussi tout à l'heure. Donc des personnes qui n'initient plus des actes moteurs, qui ont tendance à rester dans leur coin, tranquilles, à rien faire, avec une perte d'empathie, un émoussement des affects, hein, plus trop voilà, attentif à ce qui se passe autour d'eux, plus trop réactif aux émotions. Et on retrouve encore un trouble cognitif dysexécutif, donc toujours cette difficulté d'organisation, de planification, ce ralentissement, ces troubles attentionnels. Voilà, donc deux formes voilà, très différentes, soit comportement s'il y a une atteinte frontale qui prédomine, soit un trouble du langage s'il y a une atteinte temporale qui prédomine. Et donc en imagerie, eh ben, on va trouver cette atteinte frontale ou temporale. Là, on voit une atrophie importante, hein, on voit la réduction ici, on voit beaucoup de noir, vous voyez, dans les sillons là. Il y a une perte du volume cérébral au niveau frontal là devant, on voit par rapport à derrière, c'est quand même plus volumineux. On voit cette atrophie frontale ici, donc on est sur une IRM cérébrale. Et là, on voit l'atrophie temporale ici. Et ici, une réduction de volume de la matière cérébrale, hein, une perte des neurones dans ces zones en question. Alors, j'ai noté génétique parce qu'effectivement, il y a quand même une partie importante des personnes qui ont une DLFT, où il peut y avoir une mutation génétique en cause. On dirait environ un tiers, c'est pas tout le monde, hein, mais un tiers. Donc, on peut éventuellement, voilà, assez facilement rechercher une mutation génétique quand on est dans les critères. Et là, pour la DLFT, hein, dégénérescence lobaire frontotemporale, on n'a pas de traitement spécifique de cette maladie. C'est de nouveau les thérapies non médicamenteuses avec rééducation cognitive, rééducation langagière selon les symptômes présents. Voilà, donc là, je vous ai mis les principales. Il y en a d'autres encore. Je vous ai mis un peu les plus fréquentes. Pour vous montrer voilà, qu'il y a quand même différents. Il y a la maladie d'Alzheimer, mais il y a aussi beaucoup d'autres étiologies. Hein. Donc, parfois, les gens en ont un peu marre qu'on propose des examens, qu'on n'ait pas de réponse. Mais c'est vrai que le processus diagnostique, il peut être un petit peu long, surtout que, voilà, quand on est dans des formes un petit peu atypiques. Et pour vous rappeler que finalement, la certitude diagnostique, pour l'instant, c'est toujours quand on examine le cerveau des personnes, ce qu'on ne peut pas faire du vivant des personnes. Donc, on a une démarche d'approche diagnostique et de probabilité diagnostique du vivant des personnes. Donc, on s'aide de l'examen clinique, des tests, on s'aide des examens complémentaires. Mais voilà, pour approcher le plus possible la fiabilité diagnostique, mais on est toujours dans des probabilités diagnostiques plus ou moins fortes, en fait. Voilà. Alors, si vous voulez poser des questions déjà pour cette première partie.
Juste, oui, comme ça peut. Ouais. Merci déjà pour cette première partie dédiée. Je voulais très rapidement poser une question. Est-ce qu'un certain nombre de patients diagnostiqués Alzheimer aujourd'hui pourraient présenter en réalité l'une ou l'autre de ces pathologies et corollaires ? Est-ce que c'est important dans ce cas-là d'aller consulter un neurologue pour avoir le bon diagnostic ?
Alors, c'est comme je vous disais, hein, il faut être indulgent. Effectivement, on s'est aperçu, bah, avec la recherche, hein, justement, on s'est aperçu finalement que quand on posait des diagnostics qu'on dit cliniques, c'est-à-dire sur les tests neuropsychologiques, avec quand même une IRM, hein, parce que c'est toujours la base, diagnostic de maladie d'Alzheimer probable, eh ben, on s'aperçoit quand on fait des examens un peu plus poussés, maintenant on a la ponction lombaire, on a éventuellement un PET scan amyloïde pour avoir la preuve de la protéine, la présence de la protéine dans le cerveau, eh ben, on s'aperçoit que finalement on a peut-être que 70% des gens qui sont diagnostiqués, sur des critères simples on va dire, qui ont effectivement pour de vrai la protéinopathie. Donc, effectivement, il peut y avoir des mélanges diagnostiques, des erreurs diagnostiques. Alors après, en soi, c'est pas très très grave parce que la prise en charge, eh ben, c'est quand même la rééducation. On va voir qu'il y a des traitements, effectivement, actuellement, hein, qui sont disponibles pour la maladie d'Alzheimer, mais qui sont validés sur les critères simples. Donc voilà. Mais c'est vrai, quand on veut aller un peu plus loin, préciser le diagnostic et proposer peut-être des traitements spécifiques de certaines protéines, ben là, il faut qu'on aille plus loin dans les précisions diagnostiques.
Je rappelle qu'il y a des micros dans la salle, hein, rapidement, pour ces questions. Est-ce que, mais vous disiez que ce n'est pas si important, parce que, bon, voilà, mais vous soulignez quand même les troubles du comportement, assez présents dans ces autres maladies, cette composante un petit peu psychiatrique, entre guillemets, qui peut mettre les aidants dans des difficultés. Est-ce que, de ce point de vue, ce n'est pas important pour les familles, pour les aidants, de savoir à ce moment-là, d'expliquer un peu mieux le comportement.
Alors, effectivement, alors les troubles du comportement, on peut les voir aussi dans la maladie d'Alzheimer, mais en général plutôt avec l'avancée de la maladie. Et là, effectivement, c'est précoce dans les maladies à corps de Lévy, c'est vrai. Donc voilà, ces formats typiques donnent l'alerte. Et on voit qu'il y a quand même des différences dans la prise en charge où il faut faire attention aux neuroleptiques. Donc voilà, c'est sûr que...
Je rappelle que vous êtes malheureusement une spécialité très très peu représentée, donc les neurologues, on n'en trouve pas beaucoup. Hein. Et ça, ça ne facilite pas nécessairement le diagnostic, mais bon, ce n'est pas votre faute. Hein, mais
voilà, c'est comme on peut, il y en a en libéral. Mais...
Est-ce qu'il y a une ou deux questions sur les maladies apparentées ou vous voulez qu'on passe à l'actualité de la recherche sur la maladie d'Alzheimer ? Oui, bien sûr, monsieur.
Peut-être une question de Candide, on parle pas mal de brain fog, de brouillard cérébral. Donc dans les cas Covid long ou autres, mais nous on connaît une personne qui semble, enfin qui dit avoir une sorte de trouble qui se traduit au niveau visuel, alors que ni l'IRM ni l'ophtalmologue ne trouve quoi que ce soit. Enfin, on a tout essayé, on n'a rien trouvé. Est-ce que bon, en dehors des publications sur Internet, ça a une existence, ce brain fog?
Alors, oui, le brain fog, c'est-à-dire le brouillard mental, hein, on le traduit en français. Alors, on le voit dans plusieurs, finalement, c'est un symptôme un peu qu'on peut voir, par exemple, chez des personnes qui ont eu une chimiothérapie et qui ont des troubles cognitifs post-chimiothérapie. Ça peut arriver. On sort du cadre, hein, des maladies neurodégénératives. Et dans le Covid, effectivement, Covid long, sont décrits ces difficultés, hein, cette impression de ralentissement, cette impression voilà, d'être dans le brouillard, d'avoir le cerveau un peu dans la semoule, d'avoir du mal à faire plusieurs choses en même temps, des difficultés d'attention, de concentration. Et il y a ce phénomène, effectivement, qu'on décrit dans les Covid longs. Nous, on en voit régulièrement et on authentifie, effectivement, des troubles attentionnels importants dans les suites de Covid. Et voilà, donc oui, on le constate et ça existe. Après, sur le flou visuel, là, on est peut-être plus dans autre chose. Et peut-être qu'on peut retomber éventuellement sur ce que je vous disais tout à l'heure, l'atteinte cérébrale qui traite la vision, où parfois les gens ont des difficultés visuelles et les ophtalmos disent que tout va bien au niveau des yeux, mais le phénomène, c'est au niveau cérébral que ça se passe. Et effectivement, là, c'est peut-être important de consulter un neurologue.
Ouais. Prudence donc avec les diagnostics aussi, prudence avec les diagnostics posés. On voit que c'est très compliqué. Bon, on va passer, je crois, parce que pour laisser un peu de place aux autres questions, à la recherche.
Donc là, on va parler de thérapeutique. Donc là, on revient à la maladie d'Alzheimer. Donc un petit rappel sur les traitements qui sont actuellement disponibles en pharmacie depuis les années 2000 à peu près. On a 4 médicaments différents, 3 qui sont des anticholinestérasiques, voilà, qui vont augmenter l'acétylcholine dans le cerveau. Et donc ça va permettre d'atténuer, de diminuer les symptômes de la maladie. Et le dernier, la mémantine, qui est un antagoniste des récepteurs du glutamate. Donc, il va bloquer le glutamate. Et pareil, il est là pour atténuer les symptômes de la maladie. Donc, ces traitements ont une efficacité qui est modérée. Effectivement, et donc non pris en charge par la sécurité sociale actuellement. Mais on voit encore sur des études, pas très anciennes, hein, 2020, des études Cochrane qui reprennent les données de toutes les études publiées sur les médicaments, des méta-analyses, qui montrent qu'il y a quand même une aggravation clinique quand on arrête ces traitements chez les patients Alzheimer, même au fil de l'évolution de la maladie, hein, et qui montre aussi, donc en 2018 encore, le bénéfice du donepezil. Bon, ça c'était un rappel pour ce qui est actuellement disponible en pharmacie. Pardon. Donc sinon, là, c'est les hypothèses, si vous voulez, actuelles sur la maladie d'Alzheimer, sur les mécanismes de la maladie d'Alzheimer. Donc vous avez dû entendre parler de la protéine amyloïde, voilà, qui va faire des petits morceaux, qui vont faire des plaques au niveau cérébral, les plaques amyloïdes. Il y a aussi des dépôts de taux, de phosphotaux dans les neurones qui vont faire ce qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire et conduire à l'atrophie, à la perte neuronale, à la mort neuronale. Et il y a aussi l'inflammation, le stress oxydatif qui joue un rôle et des facteurs neurotrophiques qui sont là pour restimuler les neurones, si vous voulez refabriquer des neurones. Voilà, donc ça, c'est un peu les hypothèses. Et donc là, on est sur les thérapies qui parlent d'elles en ce moment. Là, c'est sur la voie amyloïde, sur la voie de la protéine amyloïde. Et vous verrez qu'il y a de la recherche un petit peu sur toutes les voies actuellement. Alors, les anticorps anti-amyloïdes, donc de nombreuses études depuis pas mal d'années, avec des résultats au début négatifs. Et puis on s'est dit, il faut peut-être qu'on prenne les patients plus tôt. Plus précocement dans l'évolution de la maladie pour pouvoir montrer un bénéfice. Le principe, c'est donc de donner un anticorps, c'est-à-dire que c'est comme un vaccin, on appelle ça un vaccin ou une immunothérapie, qui va nettoyer le cerveau de la protéine amyloïde, puisqu'elle est impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, effectivement, ces anticorps, ils permettent de diminuer la charge amyloïde dans le cerveau. Mais au début, dans les recherches, dans les résultats, on voyait que ça diminuait l'amyloïde dans le cerveau, mais on ne voyait pas d'effet chez les patients, pas d'effet clinique. Et la recherche avance. Et là, il y a eu l'aducanumab, dont vous avez peut-être entendu parler, qui avait montré son intérêt dans certaines études, mais d'autres études étaient négatives. Donc c'était un petit peu controversé, si vous voulez. Et ils ont quand même eu aux États-Unis l'autorisation de mise sur le marché en 2021, sous réserve qu'ils confirment leurs résultats, qu'ils continuent leurs recherches et qu'ils confirment quand même leurs résultats. Ça a été demandé au niveau européen, mais ça a été refusé. Donc celui-là, on ne l'a pas en Europe. Pour l'instant, voilà, il est refusé. Il y a toujours des études en cours pour vraiment montrer son efficacité. Mais depuis, il y en a eu d'autres. Il y a eu donc le lecanemab. Donc celui-là, vous voyez l'article, il est sorti la fin 2022. L'étude s'appelait Clarity. C'est donc un protocole de recherche clinique sur un anticorps, pareil, anti-amyloïde, donc sur 18 mois. Et on compare toujours à un groupe placebo pour montrer l'effet du médicament. Et donc c'est un traitement qui se donne en perfusion, une perfusion toutes les deux semaines. Donc, vous voyez les critères d'inclusion donc des personnes de 50 à 90 ans qui étaient plutôt débutantes dans la maladie. MCI, c'est-à-dire mild cognitive impairment, c'est des gens qui ont des troubles, mais pas de perte d'autonomie. Ils maintiennent une autonomie, leur autonomie habituelle. Donc, soit des gens qui n'ont pas de perte d'autonomie, soit des gens qui ont une perte d'autonomie, mais légère. Donc, voilà, des formes plutôt débutantes. Avec une confirmation diagnostique, on parlait des confirmations diagnostiques, il faut qu'il y ait un marqueur de la protéine amyloïde qui soit positif. Donc, soit on peut faire une ponction lombaire pour avoir la preuve qu'il y ait de la protéine amyloïde, ça on peut le voir dans la ponction lombaire, ou alors un PET scan un peu spécial, un PET scan amyloïde, qui va montrer que oui, il y a bien la protéine amyloïde dans le cerveau. Et dans ce cas-là, ils sont considérés Alzheimer avec preuve amyloïde. Et donc, on va pouvoir les inclure dans le protocole et leur donner le traitement qui a pour but de nettoyer la protéine amyloïde. Il faut qu'il y ait des critères donc cliniques, c'est-à-dire des troubles de mémoire et des patients, je vous disais, peu avancés dans la maladie, plutôt débutants. Et les résultats, donc, les voilà. On voit qu'on baisse bien la charge amyloïde quand on fait des imageries spécifiques amyloïdes. Là, c'est sous placebo et là, c'est sous traitement. Donc, on voit qu'on nettoie bien le cerveau des plaques amyloïdes. Et est-ce que ça change quelque chose pour les patients ? L'ACDR, c'est le Clinical Dementia Rating Scale. C'est une échelle d'évaluation de la sévérité de la démence, des troubles cognitifs. Et on voit qu'il y a une différence entre les deux courbes. Donc, le lecanemab, les gens, ils ont un déclin, mais qui est moindre que quand on est sous placebo. Donc là, c'est encore d'autres échelles, des échelles cognitives. Pareil, on voit qu'il y a une différence entre les deux traitements, avec un moindre déclin sous traitement par rapport au placebo, par rapport à quand on ne donne rien. Et là, c'est une échelle fonctionnelle, c'est-à-dire une échelle d'autonomie, des capacités dans la vie de tous les jours. Et encore une fois, les résultats sont positifs. Il y a une différence, moins de déclin quand on prend le traitement que quand on prend le placebo. Et je ne vous l'ai pas mis là, mais on parlait des aidants. Et il y a aussi, sur ce qu'on appelle le fardeau de l'aidant, il y a des échelles de fardeau de l'aidant ressenties par les proches. Et il y a une différence significative aussi entre le traitement et le placebo sur cette échelle. Donc, des résultats positifs, encourageants. Mais attention, effectivement, il peut y avoir des effets secondaires. Donc, un traitement quand même en perfusion, 2 fois par mois. Et les effets secondaires qui ont été observés, déjà un peu avec tous les anticorps en fait, anti-amyloïdes, c'est des réactions inflammatoires cérébrales, ce qu'on appelle des ARIA. C'est des anomalies sur l'imagerie cérébrale liées à l'amyloïde. En fait, le cerveau, il va réagir un petit peu à l'anticorps et faire de l'inflammation. Et ça peut donner, du coup, des lésions œdémateuses au niveau cérébral, voire des lésions hémorragiques. Donc ça, ça va être quelque chose qui va être à surveiller. Vous voyez, par rapport au placebo, il y a quand même beaucoup plus d'ARIA, sachant qu'ils ne sont pas tous symptomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours de signes cliniques. Donc ce n'est pas toujours très grave, mais ça va être à surveiller. Et les effets secondaires aussi qui sont assez fréquents, c'est des réactions au point d'injection, au point de perfusion, réactions cutanées. Voilà, là, je vous ai mis pour avoir les nombres de symptomatiques. Vous voyez 0,7% de réactions cérébrales qui vont se voir cliniquement, en fait, qui vont entraîner une modification clinique. Donc, c'est moins que tous les ARIA. Hein. Et là, 2,8%. Voilà, donc, suite à ces résultats, vous voyez, en janvier, ils ont eu aux États-Unis l'autorisation anticipée de mise sur le marché, avec donc réserve de continuer de montrer leur efficacité. Et en juillet dernier, ça a basculé sur une autorisation classique. Donc là, le traitement, il est prescrit, hein, il est donné aux États-Unis. On a une collègue qui est partie aux États-Unis qui confirme que ça y est, c'est prescrit en pratique clinique, en routine. Au niveau européen, c'est en cours. C'est au niveau de l'Agence européenne du médicament. Ils ont le dossier. Ils sont en train d'étudier le dossier. Ça a été déposé en janvier 2023. Et vous voyez, la réponse, elle est attendue pour 2024 au niveau européen. Et ensuite, selon la réponse européenne, il y aura certainement un processus spécifique à la France avant qu'on ait la réponse sur si on peut le donner en pratique clinique ou pas. Voilà, ça, c'était juste pour vous montrer aux États-Unis. Donc, ils donnent le traitement, hein, donc perfusion 2 fois par mois. Il faut faire donc une IRM de base et ensuite des surveillances IRM au cours du traitement pour voir ses effets secondaires d'ARIA. Et toujours la confirmation du coup amyloïde, c'est-à-dire qu'il faudra un diagnostic d'Alzheimer avec preuve amyloïde, donc soit ponction lombaire, soit PET scan amyloïde. Ensuite, un autre, donanemab, qui a aussi montré un résultat positif. Donc là, ça date de cet été, là, juillet 2023. Ils ont sorti donc l'article, hein, qui montre l'efficacité du traitement. Pareil, hein, une étude contre placebo, même principe sur voilà, pas mal de sites dans 8 pays différents. Donc là, ce sont des perfusions 1 fois par mois, celui-là. Même principe, un anticorps contre la protéine amyloïde qui va nettoyer l'amyloïde cérébral. Et on voit au niveau des résultats, sous traitement et sous placebo, qu'on a une réduction du déclin, en fait. Vous voyez qu'on a moins 6 sur le score IADRS, qui est un score de test cognitif et de test d'autonomie aussi, un score fonctionnel. Hein, c'est un mélange entre les deux. Et on voit qu'il y a du déclin, mais on est à moins 6, alors qu'on est à moins 9 dans le placebo. Et sur toute la population, on est à moins 10 et moins 13 sous placebo, avec une différence significative entre les deux groupes. Donc voilà, il y a du déclin, mais moindre sous traitement. Donc suite à ces résultats, il y a une conférence de presse là cet été où Lily a annoncé ses résultats et a expliqué qu'ils ont déposé la demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, à la FDA, et dans d'autres pays. Je n'ai pas réussi à trouver si au niveau européen la demande était en cours ou pas, mais en tout cas, ils font les démarches nécessaires. Et la réponse aux États-Unis est attendue pour la fin d'année. Voilà. En général, c'est d'abord aux États-Unis qu'on a les réponses, et ensuite on sait pour après. Voilà, avec ce qu'ils disaient, finalement, sur leur population, qui est une population plutôt débutante, on voit qu'il y a la moitié des patients qui restent stables à un an sous traitement. Donc, c'est quand même intéressant. Et toujours pareil, même souci que pour l'autre anticorps que pour le lecanemab, l'effet secondaire des ARIAs. Qui va être à surveiller. Vous voyez qu'il y en a plus dans le groupe traitement que dans le groupe placebo. Donc ça va être aussi quelque chose à surveiller, les réactions cérébrales aux médicaments. Alors ça, c'était pour la partie anticorps anti-amyloïde, les vaccins contre la protéine amyloïde. Mais il y a aussi beaucoup de recherches encore en cours sur différentes voies, là, comme je vous ai montré au début. Donc là, on est encore sur la voie amyloïde, mais un autre fonctionnement. Là, on va bloquer des enzymes et donc essayer de bloquer la formation des peptides amyloïdes qui ensuite forment les plaques. Pour l'instant, les résultats sont négatifs de ces études. Ensuite, je vous ai parlé de la protéine tau, phospho-tau. Il y a des études, de la recherche qui ciblent cette hypothèse-là et ces protéines-là, avec des essais qui, pour l'instant, ont été négatifs, mais d'autres qui sont en cours, voilà, et qui seront peut-être positifs, avec l'idée que peut-être on pourrait, s'il y en a qui sont positives, peut-être on pourrait associer différentes thérapies aussi. Une thérapie contre la protéine amyloïde et peut-être cumulée avec une thérapie contre la protéine tau. Voilà, c'est pour l'avenir. Il y a aussi des thérapies, je vous ai dit qu'il y avait l'inflammation, stress oxydatif qui joue un rôle. Il y a des thérapies qui sont en cours d'étude sur ces modes d'action-là. On cherche aussi des médicaments qui auraient des propriétés neuroprotectrices ou neurotrophiques pour donc protéger les neurones ou permettre leur stimulation, de refaire des neurones éventuellement. Et des études sur le ginkgo biloba, on entend souvent parler de cette petite plante qui aurait quand même peut-être des effets bénéfiques. Bon, pour l'instant, pas encore, les preuves ne sont pas encore suffisantes pour vraiment le recommander en pratique clinique. Mais voilà, les études sont en cours. Du coup, en conclusion, vous voyez que la recherche est active sur pas mal de pistes différentes, avec quand même des résultats positifs. Ça faisait une vingtaine d'années qu'il n'y avait pas de résultats positifs. On a des résultats positifs qui arrivent, et donc un espoir et pourquoi pas la France bientôt pour ces traitements.
Merci beaucoup. On vous applaudit pour cette présentation très, très, très claire et ces gros efforts de vulgarisation. Donc, on va pouvoir prendre quelques questions. Bien sûr, madame, on va vous faire parvenir le micro tout de suite.
Je vous remercie pour cette présentation. Je m'excuse pour ma voix. J'essaie de me projeter dans l'avenir le jour que cette traitement immunologique soit disponible en France. Et j'imagine la course à pied de généralistes pour détecter l'Alzheimer précocement et de façon précise. Ensuite, je ne peux même pas imaginer la charge de consultation mémoire de 5-2 heures et le démarche de pétamyloïde et de ponction lombaire. Comment on va gérer ça, en fait, pratiquement?
Oui, ça risque d'être effectivement une problématique. À laquelle on réfléchit, mais bon, sans forcément vraiment de réponse pratique. Mais effectivement, le risque, c'est d'un afflux dans les consultations. Et bon, les critères sont quand même assez stricts, donc tout le monde n'aura pas forcément accès au traitement, mais il va falloir les évaluer les personnes.
La détection précoce, le rôle de généraliste, là, en fait.
Alors voilà, c'est précoce, mais c'est pas encore au stade dont parlait le professeur Bruno Dubois. On n'est pas dans l'absence de signes cliniques. On est quand même sur des signes cliniques, plutôt débutants, mais on est quand même sur des signes cliniques. Et on invite, du coup, mais c'était déjà le cas depuis plusieurs années, aux personnes à consulter précocement. Et voilà, dès qu'il y a des petits doutes, bah, de se faire prendre en charge, de faire des tests, pour qu'on arrive à faire des diagnostics. Ça, c'est quand même une démarche depuis pas mal d'années, d'essayer de faire un diagnostic de plus en plus précoce, parce qu'on sait que, voilà, que la recherche est en cours sur des diagnostics précoces. Pour l'instant, c'était la démarche pour éventuellement participer à des protocoles thérapeutiques de manière précoce, et peut-être ce sera pour un traitement précoce.
Pourquoi, jusqu'à présent, tout ce qui... Enfin, c'est un petit peu ce qu'on essayait, nettoyer le cerveau, comme vous le disiez, ça n'a pas marché. Ça ne marchait pas en traduction de signes cliniques. Pourquoi, avec ces nouveaux médicaments, ça marche, alors qu'ils font la même chose?
A priori, c'est la sélection de la population. C'est-à-dire que sur les premières études... Sur les premières études, on faisait, comme je vous disais, on faisait les traitements, mais chez des patients qui n'avaient pas forcément la ponction lombaire ni PET scan amyloïde. Donc on traitait probablement des personnes qui n'avaient pas la maladie d'Alzheimer parmi les patients. D'accord. Première réponse. Et deuxième réponse, on était peut-être beaucoup plus large sur les inclusions, sur la sévérité de la maladie, en fait. Là, c'est vraiment des maladies qui sont débutantes. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on arrive à montrer quelque chose. Les lésions ne sont pas encore installées.
Installées encore. Je sais que vous avez presque une spécialité dans les patients jeunes. Est-ce que par tranche d'âge, il y a eu des différences de réponse? En bref, vous voyez un petit peu la question aussi, peut-être une efficacité des traitements plus grande chez les patients plus jeunes.
Alors, pour le donanemab, on a l'impression qu'effectivement, ils ont fait un comparatif, les sujets de moins de 75 ans bénéficieraient peut-être encore un peu plus du traitement que les plus de 75 ans, ce qui n'était pas le cas pour le lecanemab. Donc voilà, ça dépend un petit peu aussi peut-être des molécules, et ça va être à confirmer aussi dans la suite. Ouais.
Est-ce que vous regrettez avec ce que vous... Oui, on vous fait parvenir le micro. Est-ce que vous regrettez avec ce qui a été dit, le temps que le micro parvienne, qu'ils aient été déremboursés les médicaments?
Oui. Oui, parce que nous, finalement, en pratique clinique, sur les centres mémoire et les sociétés de référence des maladies de la mémoire, on conserve cette indication et on le propose aux personnes. Et pour nous, il y a une indication à le prescrire parce qu'il y a quand même un bénéfice. Même s'il est modéré, il y a quand même un bénéfice. Et du coup, entre en jeu quand même le problème de financement.
C'est pas parce qu'ils ont été déremboursés qu'ils sont pas bons, c'est ce que vous dites.
Voilà, et il y a du coup beaucoup le discours aussi, mais si c'est déremboursé, c'est que ça sert à rien. Et voilà, donc on est obligé un peu de lutter aussi contre ce discours.
Madame.
Bonjour. Ma question, c'est à savoir, est-ce qu'il y a une hérédité sur ces maladies, la maladie d'Alzheimer ou les troubles cognitifs?
Alors, la maladie d'Alzheimer, il y a un faible pourcentage d'origine génétique. Environ 1% des maladies d'Alzheimer qui ont une origine génétique, et c'est plutôt justement les sujets jeunes. Ça va être quelqu'un qui a moins de 50 ans qui développe une maladie d'Alzheimer, ou s'il y a plusieurs cas dans la famille, plusieurs cas en général, on dit plusieurs cas de moins 65 ans, où ça va nous mettre un peu l'alerte, et dans ce cas-là, on va chercher une origine génétique. Mais sinon, au-delà, voilà. Après, il y a des familles où il y a un peu plus d'Alzheimer que dans d'autres familles, parce qu'il y a un peu plus de risques, mais ce n'est pas forcément une transmission génétique.
D'accord.
Ça reste rare.
Donc c'est bien la différence des erreurs génétiques pures pour les cas très jeunes et pour les cas plus, je dirais, plus avancés, plus classiques, au-delà de 70 ans. S'il y a plusieurs cas, parents ou fratrie, on se dit qu'il y a quand même un petit risque augmenté,
Un petit facteur, mais sans qu'il y ait une mutation génétique causale de la maladie, quoi. On n'est pas forcément obligé de faire la maladie.
Excusez-moi, je vais me permettre la dernière question, peut-être très rapide. Vous avez parlé d'inflammation du cerveau. Est-ce que prendre des anti-inflammatoires, ça peut être utile?
Alors, ce n'est pas démontré dans des protocoles de recherche.
Non, voilà. c'est pas cette voie aussi.
Il faut aller toucher vraiment l'inflammation cérébrale.
Merci.
Mais après, voilà, des études sont en cours.
Okay. L'année prochaine, vous revenez, vous nous en dites.
On voit où on en est.
Merci infiniment. On vous applaudit.